Chapitre 27. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. Dès que Léonine est née, j'ai commandé un livre d'école pour réapprendre à lire. La journée des tout-petits, méthode Bocher, de M. Bocher, V. Bocher, J. Chaperon, instituteur, et M. J. Carré. À la fin de ma grossesse, j'avais entendu une institutrice en parler à la radio. Elle avait raconté qu'un de ses élèves avait redoublé deux fois le CP à cause de son illettrisme, qu'il ne cherchait pas à lire, mais à deviner. Il pouvait dire n'importe quoi ou utiliser sa mémoire pour faire semblant de lire alors qu'il récitait par cœur. C'est exactement ce que je faisais depuis toujours. L'institutrice l'avait alors mis sur cette méthode de lecture et en 6 mois, son élève lisait presque comme les autres de la classe. Cette méthode ancienne de lecture était entièrement syllabique. Elle interdisait le global. Impossible de tricher, de chercher à reconnaître ou deviner des mots ou des phrases. Pendant des heures, alors que Léonine était encore un nourrisson dans son landau, je lui lisais des mots à voix haute. La rue à midi. I, U, I, I, U, U, I, U. Hibou. Lune, bûchette, bille, la fête de Noël, U-O-A-I-O-U-A-O, olive, avion, domino, haricot, abricot, toto, a été, têtu. Ta, té, ti, te, tu, té, to, té. Émile, la lune, le loto, la lame, la lime. Émile a été poli à l'école. Coup, sous, fou, chou, pou, vous, goût. La sou, pi, est. Re, la bouche, le coude, le bijou, la soucoupe, la chaloupe, la couture, la douve, un filou. Eliane achète un joujou, je débouche la carafe. Ma mère coupera un chou, fera de la soupe. Léonine ouvrait ses grands yeux et m'écoutait sans juger la lenteur de ma lecture, les répétitions, les erreurs de prononciation, les mots qui coinçaient ou ce qu'ils signifiaient. Chaque jour, je lui répétais les mêmes syllabes, jusqu'à ce qu'elle glisse toute seule. Les illustrations étaient très colorées, joyeuses et naïves. Très vite, elle a posé ses petits doigts dessus. Mon cahier d'école a été taché dès que Léonine a su l'attraper et le froisser. Bave, chocolat, sauce tomate, feutre. Elle s'est même fait les dents sur la couverture. Elle le portait à la bouche comme pour l'avaler. Les premières années, j'ai caché ce livre. Je ne voulais pas que Philippe Toussaint tombe dessus par hasard. Qu'il puisse découvrir que je réapprenais à lire correctement m'aurait été insupportable. Ça aurait signifié que j'étais vraiment la pauvre fille inculte, méprisée par sa mère. Je le ressortais dès qu'il partait faire un tour. Quand Léonine voyait le manuel, elle poussait des cris de joie. Elle savait que la lecture allait débuter. Elle allait se laisser bercer par ma voix et observer des dessins qu'elle connaissait par cœur. Des petites filles aux cheveux blonds et aux robes rouges, des poules, des canards, des sapins de Noël, de la verdure, des fleurs, des scènes de la vie quotidienne destinées à de très jeunes enfants, des vies simplifiées et heureuses. Je me disais que j'avais 3 ans pour lire couramment, que quand elle rentrerait en maternelle, je saurais. J'y suis parvenue bien avant. Quand Léonine a soufflé sa première bougie, j'en étais à la page 60. J'ai réappris à lire correctement, sans buter sur les mots, grâce à cette méthode Bocher. J'aurais aimé le dire à l'institutrice de la radio, lui dire que son témoignage avait changé le cours de ma vie. J'ai téléphoné à RTL, j'ai dit à une standardiste que j'avais entendu une institutrice témoigner dans une émission de Fabrice en août 1986. Mais on m'a répondu que c'était impossible à retrouver si je n'avais pas la date exacte, et je ne l'avais pas. Apprendre à lire, c'est comme apprendre à nager. Une fois que les mouvements de la brasse sont acquis, que la peur de se noyer est passée, traverser une piscine ou un océan revient au même. C'est juste une question de souffle et d'entraînement. Je suis très vite arrivée à l'avant-dernière page, et l'histoire qui y est contée est devenue la préférée de Léonine. C'est tiré d'un conte d'Andersen, Le Petit Sapin. Dans la forêt, il y avait une fois le plus mignon petit sapin qu'on puisse imaginer. Il poussait dans un bon endroit, où le soleil pouvait le réchauffer, avec de bons camarades autour de lui, des sapins et des pins. Or, lui n'avait qu'une idée, être vite grand. Les enfants s'asseyaient près de lui. Le regardant, ils disaient « Comme il est mignon ce petit sapin !» Et le petit sapin ne pouvait souffrir cela. Grandir, grandir, devenir haut et âgé, voilà le seul bonheur sur terre, pensait-il. À la fin de l'année, les bûcherons venaient toujours abattre quelques arbres, toujours les plus beaux. Où vont-ils ? Se demandait le petit sapin. Une cigogne lui dit « Je crois bien que je les ai vus. » Ils se dressaient la tête haute sur de beaux bateaux neufs et parcouraient le monde. Quand arrivait la Noël, on abattait aussi tous les ans de tout jeunes arbustes, choisis parmi les plus beaux, les mieux faits. « Où peuvent-ils bien aller ?» se demandait le sapin. Enfin, ce fut son tour, et il fut emporté dans une grande et belle salle où il y avait de beaux fauteuils. À toutes ses branches, des jouets brillaient, des lumières étincelaient. Quel éclat ! Quelle splendeur ! Que de joie ! Le lendemain, le sapin fut emporté dans un coin, où on l'oublia. Il eut le temps de réfléchir. Revoyant son heureuse jeunesse dans les bois, la joyeuse nuit de Noël, il soupira. Passé, tout cela est passé. Oh, si j'avais seulement su jouir du grand air et du bon soleil, quand il en était temps encore. J'ai acheté des livres pour enfants, des vrais. Je les ai lus et relus 100 fois à Léonine. C'est sans doute la petite fille à qui il a été raconté le plus d'histoires. C'est devenu un rituel de chaque jour. Jamais elle ne s'est endormie sans une histoire. Même en journée, elle me courait après, des livres dans les mains, et bredouillait « Histoire, histoire !» jusqu'à ce que je la pose sur mes genoux et qu'on ouvre un livre ensemble. Alors elle ne bougeait plus, fascinée par les mots. J'avais refermé l'œuvre de Dieu, la part du diable, à la page 25. Je l'avais cachée dans un tiroir comme on cache une promesse. Des vacances reportées. Je l'ai rouvert l'année des 2 ans de Léonine. Je ne l'ai plus jamais refermé. Et encore aujourd'hui, je le relis plusieurs fois par an. Je retrouve les personnages comme on retrouve sa famille adoptive. Le docteur Wilbur Larch est mon père de cœur. J'ai fait de l'orphelinat St. Clouds dans le Maine la maison de mon enfance. L'orphelin Homer Wells est mon grand frère. Et Nurse Edna et Nurse Angela, mes 2 tantes imaginaires. Ça, c'est le choix du roi de l'orphelin. Il fait ce qu'il veut. Lui aussi peut décider de qui sont ses parents. L'œuvre de Dieu, la part du diable, est le livre qui m'a adopté. J'ignore pourquoi je ne l'ai jamais été. Pourquoi on m'a laissé traîner de famille d'accueil en famille d'accueil plutôt que me confier à l'adoption? Est-ce que ma mère biologique prenait de mes nouvelles de temps en temps, afin que je ne le sois jamais? Je suis retournée à Charleville-Mézières en 2003 pour consulter mon dossier d'enfant né sous X. Comme je m'y attendais, il était vide. Pas une lettre, pas un bijou, pas une photo, pas une excuse. Dossier qui pouvait aussi être consulté par ma mère si elle le souhaitait. J'ai glissé mon roman d'adoption à l'intérieur.